Annabelle, donc, que l'on retrouve avec cette troisième aventure de Simon, le détective Simon, dans ce livre Les Pigaliers. Alors, Simon, nous l'avons connu dans Les Plumes et puis Les Cocottes, deux romans qui, comme celui-ci, se déroulent dans les années d'avant-guerre, les années folles, comme on les appelait. Et cette fois encore, Simon va se trouver confronté à quelques cadavres, et cela dans le quartier de Pigalle. C'est bien cela, Annabelle?
Oui, c'est bien cela. En fait, cette fois-ci, Simon est dans Pigalle. Je dirais le vrai Pigalle, comme on l'imagine tous, le Pigalle des musiciens, le Pigalle des soirées galantes et en même temps un petit peu coquines. Il va surtout se retrouver heurté au silence d'une confrérie qu'il n'imaginait pas d'ailleurs être aussi liée, mais en tout cas la confrérie des musiciens. Alors, les musiciens, c'est connu, et en même temps, c'est pas très vrai. Pour notre époque, en tout cas, musiciens, ils étaient au quartier de Pigalle avec les prostituées, avec les travestis, avec tout ce monde de la nuit. Et Simon, même s'il le connaît parce que sa compagne Violette est chanteuse, va être un petit peu agacé. Il va être agacé parce que les musiciens vont se mettre ensemble et refuser de répondre à ses questions. Donc les musiciens vont respecter une loi du silence, c'est une espèce d'omerta. Et c'est vrai qu'on dit qu'un bon musicien sait ce que c'est qu'un silence, et c'est vrai qu'il ne se sert du silence que pour servir sa musique. Et c'est une idée qu'avait Simon dans la tête, mais il ne pensait pas que les musiciens feraient autant de silence dans ses interrogatoires. Ensuite, effectivement, c'est dans un cabaret qu'on va retrouver plusieurs cadavres, et il va lui chercher pourquoi telle ou telle personne a été assassinée et dans quelles conditions. Et il va très très vite comprendre que s'il ne creuse pas cet univers des musiciens et des danseurs et des meneuses de revue, s'il ne creuse pas un petit peu dans cet univers, il n'obtiendra rien. Il va essayer d'abord la force pour faire parler tout ce petit monde, et il n'y arrivera pas. Il va essayer la douceur, ça va être très compliqué, on ne lui fait pas confiance. Voilà, c'est vrai que Les Pigaliers, c'est un livre qui montre l'envers du décor, et cet envers du décor, on ne le connaît pas parce que quand on va voir un concert, quand on va voir un spectacle, on en prend plein les mirettes, on voit des paillettes, on voit de la lumière, c'est un monde de bonheur, c'est un monde de joie, et on est loin de se douter de ce que peut être cet envers du décor. Et les Pigaliers, c'est un peu ça, c'est l'envers du décor, c'est ces lois qui régissent la corporation des musiciens, qui sont finalement très très dures, qui sont des lois qui n'appartiennent qu'à cette confrérie, qu'à cette caste finalement de cette élite un petit peu de musiciens, parce que quand on joue sur scène, on a été un petit peu privilégié. Mais enfin, il y a quand même ces lois qui sont là et qui régissent ce monde. Et ces codes-là, Simon va devoir les apprendre et les comprendre avant de résoudre son enquête.
Alors cette nouvelle aventure débute avec un mystérieux cadavre retrouvé dans un étui de contrebasse.
Voilà, c'est exactement ça. Alors bon, le commissaire est à l'hôpital, la gandole est affolée, alors il appelle vite Simon. Simon prend sa voiture, part à toute vitesse, et une fois qu'il arrive au chevet du commissaire, bon, il s'aperçoit qu'en fait ça va bien. Seulement, une enquête vient de tomber, on a retrouvé le corps d'un homme dans un étui de contrebasse à l'Accordeur de piano, qui est un célèbre cabaret de Pigalle. Et là, Simon va finalement se retrouver en charge de cette enquête et commencer à découvrir un petit peu ce qui se passe dans cet univers des musiciens. Alors la première chose, sans rien dévoiler de trop, la première chose c'est que on retrouve ce corps caché depuis longtemps dans cet étui parce qu'en fait on a senti une mauvaise odeur et puis surtout on se dit ça peut être que Manu, le contrebassiste. Puisque l'homme est retrouvé dans un étui de contrebasse, la logique c'est que ce serait Manu, mais surtout parce que Manu il a disparu. Donc il y a la petite Zaza qui est la compagne de Manu, perdue dans tous les sens du terme, et qui commence à s'affoler. On ne le retrouve pas, c'est forcément lui dans la contrebasse. Et puis après les soupçons se portent sur un autre musicien qui est Alphonse, le saxophoniste. Et là c'est pareil, il a disparu. Alors le problème c'est que le cadavre est dans un état relativement mouvement avancé de décomposition et on ne peut pas savoir qui il est. À l'époque, la médecine légale n'offrait pas toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui. Donc on ne sait pas qui il est, surtout que l'oiseau, la meneuse de revue, leur demande de s'habiller de la même manière, leur demande d'avoir une petite moustache, la petite raie sur le côté gominée comme à l'époque. Et là, vraiment, il y a un problème. Qui est le cadavre dans la contrebasse. Ensuite, Simon va avancer un petit peu plus et il va comprendre que ça peut être aussi les personnes qui ont été chargées de remplacer les deux musiciens. Voilà, Manu et Alphonse n'étant pas présents, ils ont des remplaçants. Et c'est vrai que dans le monde de la musique, un remplaçant, c'est quelqu'un de très très important. Un remplaçant doit pas être aussi bon que vous, mais quand même, il doit être très bon, parce qu'on ne peut pas proposer quelqu'un à sa place s'il ne peut pas faire, comme on dit, le travail, le job. Ensuite, cet homme-là doit être loyal, parce qu'il ne faut pas se faire piquer sa place pendant son remplacement, etc., etc. Mais c'est vrai que Simon va vite réunir les musiciens, il va vite faire le compte, et il va plus ou moins se dire que voilà, définitivement, ça va être Alphonse ou Manu dans la contrebasse.
Alors, il y a toujours aussi un petit coin de Saint-Étienne à Paris, comme le petit Canit du Guette, parce que Stéphanois, il est Simon, et Stéphanois, il reste.
Oui, Simon est désespérément Stéphanois. Il est accroché à ses racines. Il adore sa ville, mais c'est peut-être aussi parce qu'il s'en est éloigné. Je pense que s'il ne s'en était pas éloigné, il n'aurait pas eu cette conscience-là. Il n'aurait pas été aussi nostalgique quand il pense à Saint-Étienne. Et en même temps, étant moi-même stéphanoise et moi-même expatriée, Saint-Étienne, c'est une belle ville quand même. Ensuite, le petit Canit du Guette, c'est sa petite piqûre de rappel aussi. C'est son moment où, c'est le moment de sa journée ou de sa semaine où il va se sentir protégé un petit peu par son univers, parce que ce sont ses racines, parce que cela représente toute son enfance, et que au milieu d'une enquête, il y a des dangers, il y a des doutes, des peurs, et se retrouver chez Huguette à manger des plats stéphanois, c'est peut-être ce qui l'aide et le réconforte le plus. Voilà, c'est, je pense, quelque chose qu'on peut vraiment, à mon sens, ressentir tous si on s'expatrie. Le pays natal, la mère patrie, est quelque chose de très très important. Et pour Simon, même s'il reste en France, c'est très très vif. Et je crois même que quand il est chez Huguette, il résout ses enquêtes. C'est là qu'il comprend qu'il est suffisamment serein pour avoir du recul et analyser la situation et résoudre ses enquêtes.
Annabelle, donc, toujours avec nous pour l'enquête de Simon, les Pigaliers aux éditions Execo. Alors, rappelons-le, donc, Simon mis sur le coup par le commissaire Canard, bloqué à l'hôpital et accompagné ou assisté de la gandole, eh bien, il semble avoir quand même un peu de mal à se faire à cette faune de la nuit parisienne dans un premier temps.
Oui, Simon va avoir vraiment beaucoup de mal avec ce milieu de la nuit. Pourtant, il pensait le connaître, parce que quand on est détective privé, on connaît un petit peu le monde interlope de parisien. Mais là, le problème de Simon, c'est que il était sûr, en arrivant sur cette enquête, qu'il allait pouvoir communiquer avec les musiciens, qu'il allait pouvoir finalement fraterniser avec eux. Mais là, il se rend compte que non, en fait. Il n'aura pas de réponse. Ces gens-là vont faire corps. Ils vont s'entraider dans un silence absolument incroyable. Et effectivement, Simon va régulièrement aussi être choqué par les mœurs, par les us et coutumes. Quand il voit l'oiseau qui collectionne les amants, quand il rentre chez Chastignol et qu'il trouve l'oiseau dans un lit avec trois femmes, il va encore être surpris. Il est prude, Simon. Il est un petit peu puritain quand même. Il ne faut pas oublier qu'il a des racines italiennes qui l'enferment un petit peu dans ce genre de choses, et c'est vrai qu'il va être complètement désarçonné. Alors les cocottes l'avaient déjà bien bouleversé, mais alors là, le monde des cabarets parisiens va complètement le perdre. Alors, il se fait à beaucoup de choses au fur et à mesure de son enquête, mais je crois que ce qui va le gêner le plus, c'est pas forcément la légèreté des mœurs des uns et des autres, parce que finalement, il la respecte et que finalement, il va faire avec, puisque de toute façon, il faut qu'il trouve qui est le meurtrier. Mais ça va plutôt être cet entêtement, cette solidarité qu'il ne pensait pas trouver. Voilà, cette solidarité, elle est très très forte. Et lui, Simon, même en faisant ami-ami avec les musiciens, il va pas y arriver. Il va être obligé de se débrouiller par lui-même. Après, c'est vrai qu'il y a des personnages extrêmement violents, je reconnais, notamment le baron chinois, qui va être un personnage très cruel, qui est un vendeur d'opium, qui a pignon sur rue dans un quartier parisien, ce qui était vraiment le cas à l'époque, hein, il y avait des fumeries. Et là, il va avoir peur, Simon, parce que il va se retrouver en face d'un personnage qui a tellement vécu, qui a tellement saigné, qui a tellement fait couler du sang, qu'il n'a plus peur de rien, et certainement pas d'un détective. Donc, c'est vrai que ce baron chinois, la première rencontre va être absolument éprouvante pour Simon, parce qu'il ne va pas trouver la faille de cet homme. Il va être en face d'un mur de cruauté. C'est un homme qui coupe la langue de ses gens, c'est-à-dire des vieux Chinois qui font les préparations d'opium, de ses barman, si jamais il parle trop. Il ne va pas hésiter à frapper ses prostituées. Il va avoir un tripot derrière un mur, un tripot secret, bien évidemment, où il ne va pas hésiter à faire couler le sang quand il n'est pas payé, quand les joueurs viennent et font des dettes. Voilà, c'est un personnage extrêmement cruel et qui a, par rapport à plein de choses, finalement très très peu de peur, même de la mort. Cet homme-là, il n'a même pas peur de la mort. Il la côtoie puisqu'il la donne, il la distribue à son aise et quand il le veut et dès qu'il le peut. En plus, ce baron chinois, il est aidé par son fils qui est tout aussi cruel et désaxé que lui. Il a fait la guerre des boxeurs quand même. La guerre des boxeurs, ça s'est passé en Chine et il était contemporain de cette guerre-là. Enfin voilà, ce baron est absolument infect et Simon éprouve de la répulsion parce que c'est lui qui fournit les danseuses en opium, les danseuses de l'oiseau, les danseuses de la revue. Il y en a quelques-unes qui sont complètement détruites et dévastées parce que dans ce cabaret, c'est la réalité de la vie parisienne de l'époque et de la vie à Pigalle. Ces danseuses-là, il y en aura certaines qui tiendront choc, d'autres parce qu'elles n'ont pas assez d'argent, elles vont se prostituer un petit peu le soir après le cabaret pour pouvoir assumer le quotidien, parce qu'on n'épouse pas, en tout cas à l'époque c'est difficile, on n'épousait pas une prostituée. Voilà, toutes ces femmes, pour tenir, elles vont être obligées de tomber dans la drogue. Après, attention, les pigaliers, ce n'est pas une généralité. Il n'y a pas que des faits, que des choses un peu communes qui sont finalement rentrées dans la tête des gens. Non, les musiciens sont des gens normaux. Il y a de tout chez les musiciens, des gens extraordinaires comme des, excusez-moi l'expression, comme des cons. C'est pareil pour le monde des danseuses. Voilà, c'est une petite civilisation, mais dans laquelle on retrouve des gens complètement normaux, avec leurs problèmes, avec leur bonheur et avec, je dirais, leur passion. Voilà, c'est vrai que le monde interlope parisien, finalement, est un bel exemple de tout ce qu'on peut trouver dans le monde interlope des autres villes françaises. Et Simon, qui quand même le connaît bien, va avoir quelques problèmes à gérer tout ça, à mettre les pièces bout à bout, parce que régulièrement, voilà, il est choqué.
Alors ce roman est aussi enrichi de lexique, argot des musiciens, du gag à stéphanois pour mieux comprendre certains personnages, dont Simon notamment, et finalement ces histoires, ce vocabulaire s'enrichit au fur et à mesure de tes romans.
Oui, c'est vrai que mes livres sont régulièrement agrémentés par un petit lexique. C'est vrai que l'idée est venue d'abord avec le gaga stéphanois, qui vient de l'arpitan et qui est une espèce de dialecte pas si facile que ça à comprendre, mais qui est tellement riche, qui a tellement de nuances, que je voulais en mettre. Alors la bouche du guet est très fleurie de Gaga Stéphanois, et puis Simon en profite un petit peu pour faire des apartés avec elle, pour pas que tout le monde comprenne ce qu'ils se disent. Donc quand même, je me suis dit, il faut que les lecteurs puissent suivre, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, j'ai mis ce petit lexique de Gaga Stéphanois, et puis c'est drôle le Gaga Stéphanois, et puis c'est beau, et quelquefois c'est même très poétique. Donc je voulais faire profiter de ça un petit peu à tout le monde. Ensuite, j'ai rajouté dans l'épigallier un petit lexique d'argot des musiciens, parce que les musiciens, ils ont leur langage et que c'est pas toujours facile de les comprendre. Et en même temps, puisque je dévoilais l'envers du décor, c'est-à-dire l'éloge, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans la tête de certains musiciens, je me suis dit pourquoi pas un petit peu expliquer aux gens et aux lecteurs certaines expressions, parce que c'est pareil, les musiciens se comprennent entre eux, et je voulais pas fermer, je voulais pas que ce cercle reste fermé pour les lecteurs, parce que par exemple, je sais pas, mais une expression comme mettre son instrument sur l'armoire, ça veut tout simplement dire ne pas pratiquer son instrument, ne pas en mettre une dedans, ça veut dire rater son solo, hein, et le rater plusieurs fois, une répé, bon alors ça s'est passé un petit peu plus dans le langage quotidien, mais c'est la répétition du spectacle. Mettre des pains, voilà, c'est faire des erreurs, des fausses notes. Ensuite, par rapport aux besoins de l'enquête, les pendrillons, il faut quand même savoir ce que c'est que les pendrillons. Voilà, c'est des rideaux de scène, c'est ce qui fait le noir de la scène sur les côtés pour qu'il puisse y avoir, par exemple, le musicien d'après qui rentre, mais qu'il soit caché à la vue de tous. Qu'est-ce que c'est qu'un orchestre d'étoffé, par exemple? Un orchestre d'étoffé, c'est un orchestre de musique classique. Et le juge de paix, c'est le métronome. C'est d'une logique implacable. En même temps, je trouve ça aussi très, très drôle. Je voulais vraiment que les gens connaissent ces expressions-là. Alors, je n'ai pas tout dévoilé. Mais voilà. Ensuite, Manu, par exemple, qui joue de la contrebasse, il joue, en fait, on appelle une contrebasse une grand-mère. Je trouve ça génial, c'est tellement beau. Donc je voulais pas que les gens soient privés de ce petit plaisir là. Et en même temps, je dois t'avouer que moi j'ai mis un temps fou finalement à le faire, ce lexique, parce que je ne savais plus, moi qui étais musicienne, je ne savais plus si certaines expressions étaient franchement de l'argot ou du français, ou si c'était du langage musical, du langage de musicien. Alors voilà, ça m'a finalement pris plus de temps de faire le petit lexique que d'écrire certains chapitres de Simon. En tout cas, il n'est pas complet, bien sûr, parce que je ne me pose pas en détenteur de tout le vocabulaire des musiciens, mais il existe un petit peu quand même, et puis s'il y en a qui veulent en rajouter, je suis preneuse et vraiment avec plaisir.
Alors Simon, il a sa vie aussi, hein, avec Violette notamment, et paf, tous les jours facile de concilier à la fois le boulot et l'amour.
Et oui, en même temps, Simon, c'est quelqu'un comme tout le monde. Voilà, il a un travail et puis il a une petite amie. Et effectivement, Violette, qui est pourtant quelqu'un de très, très, très facile, de très patiente avec lui, parce qu'il a quand même un caractère assez trempé, Violette, elle va tout accepter, tout autoriser, et Simon, lui, va être un tout petit peu plus strict, et il va placer en Violette tous ses espoirs. C'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas eu de vraie famille qu'il va être exigeant dans sa relation avec Violette. Il ne voudra pas que cet amour, ce fan, il voudra que cet amour reste toujours comme au premier jour, et surtout il ne va pas vouloir voir l'envers du décor de cet amour-là. Il voudra que ce soit toujours propre, toujours beau, et il découvrira que non, finalement, non, c'est l'amour a ses fluctuations, une relation n'est pas toujours en haut, elle peut être très très en bas, et là, voilà, Simon, lui, va avoir du mal avec le côté obscur et la chute et la descente aux enfers qu'une relation amoureuse peut avoir. Voilà, il va pas vouloir être entraîné dans cette chute, et finalement, il va peut-être y aller.
Alors au fil des pages, finalement, eh bien, Simon va finir par y mettre un nom sur son cadavre.
Et oui, Simon va finir par mettre un nom sur son cadavre. Et même, il va finalement comprendre. Enfin, il est là, Simon. Il faut pas oublier qu'il est très très bon. C'est pour ça qu'on l'appelle. C'est parce qu'il est excellent dans son domaine. Il va finir par mettre un nom, mais il va rencontrer pas mal d'embûches. Finalement, il va développer une certaine proximité avec les musiciens de l'Oiseau. Et il va aussi développer une belle proximité, parce que ça, tu vois, je voulais en parler. Il va développer une proximité avec un luthier, parce que le monde des musiciens, c'est ça. Les musiciens, sans leurs instruments, ils ne peuvent rien faire. Et un instrument ne peut pas naître ailleurs que dans les mains d'un luthier. Et voilà, Simon, il va tomber sous le charme de ces gens de l'ombre que sont les luthiers, que ces amoureux de la musique que sont ces luthiers. Il va aimer le constructeur, il va aimer l'homme, parce que derrière cet artisan très très habile qui est un luthier, il y a l'homme. Et je crois que souvent l'homme finalement doit être meilleur que l'artisan. Pour qu'un instrument sorte de ses mains, il a besoin d'avoir d'autres qualités que des qualités d'artisan. Les instruments, c'est sa vie. Et il y a un créateur derrière, il y a un luthier. Et Simon va adorer entrer dans la boutique de ce luthier et il va en garder un souvenir incroyable. Et il est vraiment pas prêt d'oublier ce qu'il a vu, ce qu'il a senti, parce que dans un atelier de luthier, il y a ce que l'on voit, il y a aussi des odeurs, les essences de bois, les vernis, voilà, toutes ces belles choses, et puis ces petits secrets qu'ont les luthiers pour donner vie à ces instruments. Voilà, Simon va en garder un souvenir absolument incroyable. Je conseillerais à tout le monde d'aller visiter les ateliers de luthiers, mais je crois que parfois les luthiers préfèrent garder leurs petits secrets et ne pas entamer leur monde. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle expérience que j'ai voulu faire vivre à Simon, l'ayant vécu moi-même. Et vraiment, je ne le regrette pas. Et Simon, c'est pareil, ne le regrettera pas.
Alors ce livre, Annabelle, comme les précédents, est aussi l'occasion de découvrir un univers bien particulier. Ici, c'est celui des cabarets parisiens, des artistes de tout poil ou même voire à poil, du milieu de Pigalle avec ses personnages hauts en couleur, peu recommandables pour certains. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns ou quelques-unes?
Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelques personnages quand même que j'aimerais bien vous présenter. En fait, je voudrais commencer par l'Oiseau, parce que l'Oiseau, c'est la meneuse de revue. Alors l'Oiseau, elle est complètement narcissique, elle est d'une sécheresse absolument incroyable, elle est très très fière d'elle, elle est sûre de ce qu'elle est, elle est dogmatique, et ses musiciens qu'elle aime pourtant, parce qu'elle connaît parfaitement ce monde, et elle connaît bien les musiciens, elle les aime et en même temps, elle les déteste. Voilà, c'est une espèce d'amour-haine. Elle les aime parce que elle se rend bien compte quand même qu'ils sont là pour la sublimer, mais elle se rend compte aussi qu'ils sont là pour eux-mêmes, parce que c'est ça aussi l'envers du décor des musiciens. Ils sont complètement dévoués à la personne qui va être devant, personne qui va chanter, qui va danser, et en même temps, ils sont pas bêtes. C'est vrai que ces personnes-là, ils en ont besoin. Pourquoi ? Pour mettre en valeur leur talent. Et leur talent, il n'y a pas que qu'ils l'ont. C'est vrai que parfois on peut tomber sur quelqu'un d'absolument extraordinaire et il est unique. Et en même temps, surtout à l'époque, on pouvait tomber sur quelqu'un qui avait le même talent que son confrère qui attendait sur le marché Place Pigalle. Alors voilà, l'Oiseau, elle va être un petit peu dogmatique, ça va même être quelqu'un de tortionnaire, elle ne va rien leur passer, elle va être vraiment très très exigeante. Voilà, ça c'est un petit peu typique, alors ça c'est par respect aussi pour mes amies chanteuses, elles savent que c'est très difficile aussi d'être une femme au milieu de cette corporation, cette confrérie qui est, à l'époque surtout, en majorité masculine. Voilà, donc l'Oiseau, elle va se battre un petit peu avec tout ça. Et c'est pas quelqu'un forcément de très aimé de l'intérieur par ses musiciens et par son équipe technique. C'est plutôt quelqu'un qui va être adulé par le public. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un d'un peu ambivalent, l'Oiseau. Je vous laisse quand même la découvrir pour ceux qui en ont envie. Ensuite, je vais vous parler peut-être de Lazare. Alors Lazare, c'est le chef d'orchestre. Alors le chef d'orchestre, en général, c'est Grand Manitou. On le respecte beaucoup. Sans lui, on ne peut pas faire grand-chose, entre guillemets, parce que les chefs d'orchestre, c'est pas forcément quelqu'un qu'on retrouve dans chaque équipe, surtout dans la musique d'aujourd'hui. Mais en tout cas, le chef d'orchestre, c'est lui qui donne les ordres. Alors, parce que c'est un peu le chef, quand même, bon, ben voilà, on a une réaction un petit peu épidermique, juste parce que c'est le chef. Et puis, parce que c'est le chef, il est obligé d'être exigeant. Et lui, Lazare, il est peut-être mis ici par obligation par l'oiseau, mais il aimerait bien finalement faire partie de l'équipe plus que ça, mais parce qu'il est le chef, il va se retrouver un peu mis à part, aussi bien du côté des musiciens que du côté de l'oiseau. L'oiseau va faire passer tous les messages par son intermédiaire, et les musiciens vont en faire de même. Donc c'est un petit peu Lazare, c'est un petit peu la victime de tout ça. Il n'est pas très sympathique, Lazare, justement, de par son rôle, et puis aussi parce qu'il a un passé avec un père absolument horrible qui jeter son dévolu sur son fils parce que lui-même n'a pas eu la carrière dont il rêvait. Il va obliger son fils à en avoir une. Il va vivre cette vie, la vie de Lazare par procuration, comme les parents de beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens et de musiciennes. Et Lazare va se retrouver dans une espèce d'obligation, comme ça, d'obéir à son père et de contenter son père. Et ça va être très, très difficile pour lui. Il va essayer de lutter parce que son père est issu de la musique classique et a des rêves en ce sens pour son fils. Et à l'époque, être musicien dans le classique ou dans un orchestre à l'opéra voulait dire ne surtout pas toucher aux autres formes de musique. Et lui, Lazare, il aimerait bien faire du jazz. Et donc, dans le cabaret de l'oiseau, à l'accordeur de piano, on fait du jazz. Et là, il est en conflit avec son père, qui imagine que la variété et le jazz va abîmer le beau toucher de son fils. Donc voilà, Lazare, il est pris un petit peu entre plusieurs feux, et ça va être là son gros, gros problème. Ensuite, on a Edwin. Alors Edwin, c'est le percussionniste, c'est l'Américain qui vient et qui va révolutionner un petit peu ce monde du cabaret, parce qu'il va apporter à son équipe une nouveauté, justement le jazz dont on parlait, et il va leur apprendre à appréhender la musique d'une manière complètement différente. Alors Edwin, il est beau, mais il est très très arrogant, et c'est en particulièrement à lui que va avoir affaire Simon, parce que Edwin, mine de rien, a été élu par ses collègues musiciens, beaucoup plus que finalement Lazare. Ensuite, il y a bien évidemment plein d'autres personnages. Il y a Jojo, qui est le régisseur, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le monde du spectacle, il n'y a pas que les acteurs ou les musiciens qui sont sur scène, il y a ceux qui sont derrière. Et Jojo, c'est le régisseur, c'est celui qui va s'occuper des musiciens quand ils ont un problème, c'est lui qui rassemble les diapasons, c'est lui qui contrôle tous les instruments, avec bien évidemment les techniciens lumière, les techniciens son, bien qu'à l'époque le son c'était un petit peu aléatoire, il n'y avait pas beaucoup beaucoup de possibilités de sonoriser les orchestres. En tout cas, Jojo, il va chapeauter tout ça, puis c'est aussi l'intendant du cabaret, parce que le cabaret, eh bien, même s'il gagne bien sa vie, même s'il est fréquenté, qu'il a du succès, le cabaret est en face de toutes les réalités de la planète, à savoir des réalités budgétaires. Voilà, ce qui m'amène à vous parler de Chastignol. Chastignol, qui est le mari de l'oiseau, qui est le manager des musiciens et de l'oiseau, et qui est aussi le propriétaire du cabaret. Et Chastignol va s'avérer être une personne très dure, très difficile, qui, lui, n'y connaît rien dans la musique. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. Et surtout, il ne marche pas à l'émotion. Il va marcher tout simplement à l'applaudimètre. Voilà, pour lui, si on applaudit, c'est qu'on est content. Et lui, la musique, c'est pas son problème. D'abord, il dit lui-même ne rien y connaître. Lui, ce qu'il connaît, c'est les fafios, les talbins et surtout le nombre de bouteilles de champagne qu'il va vendre tous les soirs. En même temps, il va quand même aimer ce monde de musiciens jusqu'au point même de s'imaginer être leur ami, mais on verra plus tard que les musiciens ne pensent pas du tout, du tout, du tout la même chose.